Paroles d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Cette émission est consacrée à l'Afrique. Je retiens comme thème le titre d'un article du journal Le Monde en octobre 2016, « L'avenir du monde se joue en Afrique ». Oui, c'est osé, et vous allez écouter cette émission « L'avenir du monde se joue en Afrique ». En octobre 2016, les intellectuels francophones se réunissent à Dakar pour des ateliers de la pensée. Cet événement a été très remarqué dans certains milieux et oublié par la majorité des gens, les médias en ont relativement peu parlé. Ceux qui étaient là, à Dakar, à ce moment-là, venant de toute l'Afrique et surtout de l'Afrique francophone, étaient lucides de l'état de l'Afrique. Pauvreté, sida, misère, corruption, guerre, famine, comme celle du Soudan ou celle de l'Éthiopie actuellement, et bien d'autres drames. Mais ils sont aussi convaincus de la planétarisation de la question africaine. Ils sont convaincus que ce continent peut être un moteur pour le monde et que bien de ses valeurs ont une résonance universelle. Pour cela, il convient de penser pour l'Afrique le politique, le développement, l'écologie et le vivre ensemble. Pour ce 21e siècle, une nouvelle génération apparaît qui porte une pensée critique et créatrice, ça et là en Afrique. Pour ce 21e siècle, on aura sans doute l'occasion d'en parler dans cette émission, les femmes africaines vont jouer un rôle sans doute déterminant, audacieux, courageux. Dans le domaine de la culture et des arts, des voies nouvelles surgissent. Vers 2050, 2,4 milliards d'habitants du monde, selon les prévisions, habiteront en Afrique, soit un quart de l'humanité. Vaste chantier pour le monde et pour l'Afrique. Pour cette émission, trois témoignages du Pays de Grâce. Oui, chers auditeurs, si vous êtes dans d'autres régions de France ou à l'étranger, regardez autour de vous, vous serez surpris de trouver des gens courageux, parfois silencieux, qui travaillent pour l'Afrique et qui le font d'une façon exceptionnelle. Et ce soir, en studio et en direct, nous avons trois personnes, Marie-Noël, Bernadette et Yves, qui travaillent dans trois associations différentes et qui, dans un instant, nous diront ce qu'ils font et comment ils le font. Nous aurons aussi un entretien avec Denis Priant, des éditions L'Harmattan, qui rentre d'Afrique dans la deuxième partie de cette émission. Nous l'aurons en direct de Paris. Mais si vous voulez bien, commençons par un ouvrage qui vient de sortir, « Le dictionnaire amoureux de l'Afrique ». Aux éditions Plomb, 880 pages, mais 25 euros seulement. Hervé Bourges, journaliste, dirigeant, dans l'audiovisuel, dans le CSA, Radio France Internationale. Hervé Bourges a la double nationalité. Hervé Bourges qui a 83 ans et qui dit cette expression magique « J'ai trop peu de temps à vivre pour perdre ce peu ». Alors, écoutons-le si vous voulez pour commencer, parler de son dictionnaire amoureux.
Et on sent Hervé Bourges qu'il est vraiment amoureux. D'ailleurs, à tel point que votre passion pour l'Afrique vous a valu le surnom de Bourges l'Africain.
Oui, je suis pas le seul. On a dit la même chose de Mitterrand, on a dit la même chose de Chirac. J'aurais aimé être le seul, mais c'est vrai que l'Afrique est en moi, si vous voulez, parce que les 6 ans que j'ai passés au Cameroun ne sont pas les seules années passées en Afrique, en comptant les années que j'ai passées en Algérie. D'abord avec mon service militaire, 30 mois, je voudrais quand même le dire ici. Et puis ensuite, après l'indépendance, j'ai passé une quinzaine d'années en Afrique à y vivre, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir les responsabilités dans l'audiovisuel français que vous avez bien voulu rappeler tout à l'heure. Et puis, j'ai effectué beaucoup de voyages. Je rappelais que pour les obsèques de Léopold Sédar Senghor, ce grand chef d'État, ce grand poète et cet homme supérieur, c'était mon 75e voyage à Dakar. Donc j'ai beaucoup voyagé au travers de l'Afrique.
Il n'y avait pas de représentant de l'État français
Ça a été une honte. Il n'y avait ni le président de la République, ni le Premier ministre. C'était en fin d'année, vous savez, c'est entre Noël et le jour de l'an. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était pas du tout... Je crois ils se sont mordus après les doigts. Et ils l'ont dit, d'ailleurs. C'était une grave erreur. On reçoit toujours l'étranger. Il est toujours bienvenu, vous savez, dans toutes les parties de l'Afrique. Et malgré les circonstances actuelles que nous connaissons avec le terrorisme... Et avec des endroits qui sont peu sûrs, c'était l'accueil est quelque chose d'extraordinaire. Il y a deux choses qui m'ont surpris, c'est l'accueil d'une part, et d'autre part le fait qu'on ne laisse jamais un vieillard à l'abandon. Un vieillard, on ne le met pas dans un asile, dans une maison de retraite, on le garde auprès de soi à la maison, parce que c'est quelqu'un qu'on respecte jusqu'à sa mort. Et ça, c'est des choses que j'ai pu apprendre en Afrique. Je dirais que ma force, c'est peut-être d'avoir connu aussi bien des chefs d'État que des opposants, mais aussi des simples citoyens, de connaître aussi bien les palais présidentiels que la brousse et que les gens dans le désert. Et j'ai vu comme ça des hommes assez formidables. Et ce qui m'a toujours surpris, c'est de voir que combien nos ambassadeurs, par exemple, qui sont souvent des gens de très grande qualité, mais étaient des gens qui, quelquefois, ne connaissaient pas la profondeur de l'Afrique. Pour ça, il faut vivre au milieu des gens.
Hervé Bourges, l'Afrique vous a rendu plus humaniste, ou c'est parce que vous aviez une fibre humaniste que vous avez été attiré, vous, le Breton, vers la terre africaine?
Vous savez, je ne sais pas si je suis humaniste, je ne pense pas être né humaniste, je le suis peut-être devenu, j'espère. En tout cas, mon éducation l'a permis, j'avais des parents qui m'ont bien éduqué. Père Breton, comme vous le rappelez, je suis né à Rennes, en 1933, l'année de l'avènement d'Hitler, et j'ai vécu ensuite dans d'autres régions de France. Ma mère était berrichonne, et j'appartiens, si vous voulez, à la France profonde, paysanne, que j'aime. Mais en même temps, je me suis ouvert à d'autres continents par la chance, peut-être, et le hasard, mais c'est ainsi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris de l'Afrique. J'ai appris la patience d'abord.
Ah oui.
Je suis quelqu'un qui est rapide et qui aime bien qu'on puisse régler les problèmes vite. Mais je me suis aperçu qu'il faut très souvent prendre son temps, ce qui n'est pas simple, mais qui permet de prendre sur soi. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que j'ai apprise aussi, c'est la fraternité. C'est quelque chose qui existe pratiquement plus dans le monde d'aujourd'hui. Et je le dis, mais très simplement, mes meilleurs amis, bon, j'ai des amis qui sont nés en Bretagne ou qui sont nés dans d'autres parties de la France et qui sont très très proches, mais j'ai quelques amis qui sont de véritables frères, il y en a un d'entre eux d'ailleurs qui m'appelait juste avant que je vienne ici, c'est Bagatel Nadi, Mahmoud Hussein, dont je parle dans mon livre, les deux amis égyptiens qui ont fait 5 ans de prison dans la même geôle en Égypte et qui sont venus en France et qui sont maintenant français et qui sont ceux qui ont le mieux écrit sur l'islam. J'ai d'autres amis. Je parle du frère camerounais Henri Bandolo, qui était un grand journaliste qui est mort il y a quelques années et qui a été quelqu'un qui a accompagné ma vie pendant mes années au Cameroun. Oui. Et en Algérie, il y en a d'autres aussi. Je parle de mon ami Manu Dibango.
Oui.
Voilà, Dictionnaire amoureux de l'Afrique, Hervé Bourges, aux éditions Plomb, 880 pages, 25 euros. Il fallait écouter, je crois, cette voix pour commencer cette émission sur ce thème « L'avenir du monde se joue en Afrique ». Alors maintenant, je me retourne vers mes 3 invités dans le studio, Marie-Noël, Bernadette et Yves, qui ont 3 approches sur l'Afrique depuis des années. Alors, je vais poser la question à chacune et à chacun. Que faites-vous et comment vous contribuez à faire en sorte que l'avenir du monde se joue en Afrique, Marie-Noël?
Nous intervenons en pleine brousse, vraiment dans un endroit loin de tout, à 45 km par la piste de la petite ville la plus proche. Et quand on est là-bas, on est loin de tout et on se décrasse vite. On se décrasse de tout le superflu. Et on partage, je crois que j'ai entendu des mots magnifiques qu'on vit là-bas, on partage notre humanité, on partage notre fraternité. Ça, c'est vraiment les mots les plus vrais. Voilà. Et donc, ce qu'on fait pas, je sais pas, ils nous donnent et on donne. Et notre don, c'est plutôt de les soutenir pour qu'ils puissent rester sur place, pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent, parce que c'est de la survie permanente. Il y a pas de médecin, il y a pas d'argent, il y a rien, voilà. Donc et puis quand on est en brousse, on n'a pas de voiture, on n'a pas d'ambulance pour aller à la petite ville. Hein. Donc c'est compliqué. Et le mieux, c'est d'essayer de trouver les moyens qui puissent rester sur place, qui puissent économiquement s'en sortir, puisque tout est devenu payant et qu'on peut plus aller à un endroit ou à un autre en échangeant un poulet contre n'importe quoi d'autre.
Marie-Noëlle, vous en êtes, je crois, à votre 9e voyage.
Oui.
Et vous venez de publier le 6e livre, ce que vous appelez les carnets de voyage de Marie-Noëlle, aux éditions de Bergier. Ce sont des livres qui se lisent d'une façon passionnante, qui sont très joliment présentés, dans lesquels on retrouve de vos dessins et de vos poésies, en l'occurrence en plus. Et on a l'impression que non seulement vous nous racontez le voyage au niveau du quotidien, c'est extrêmement facile à lire et c'est très beau, mais en même temps, il y a une sorte de méta-voyage, c'est-à-dire à chaque fois, vous prenez le recul pour nous parler de ce que vous vivez dans ce voyage. Où peut-on trouver les livres? Comment fait-on?
Alors, les livres, c'est à travers notre association, hein, puisque notre association est née d'un jumelage entre le village de Châteauneuf-de-Grasse et le village de Nako, au Burkina Faso, à partir d'un jumelage de paroisse, hein, je précise quand même. Mais enfin, on aide tout le monde, on n'aide pas que les chrétiens, on aide tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc, notre association s'appelle Château Nako.
Vous avez un site?
Alors, on a une page sur le site du consulat du Burkina Faso de la Côte d'Azur, voilà, qui nous héberge. Et sinon, on a une adresse mail, bien sûr. Voilà.
Alors, donnez-nous cette adresse mail, si vous voulez bien.
Alors, château comme un château, hein, petit tiré du 6, Nako, N-A-K-O, @orange.fr.
On reviendra dans la deuxième partie avec vous, Marie-Noëlle, sur votre travail tout à fait passionnant. Bernadette, vous représentez l'association Cabusso, dont le siège est à Cabris, qui a été créée par une personnalité, enfin absolument hors du commun, Victor Delpierre, facteur, qui, je le rappelle, lisait les lettres à Marie de Saint-Exupéry quand elle était aveugle. C'est un personnage qui connaît remarquablement l'histoire de son village. Et je crois qu'il y a combien, 50 ans qu'il travaille dans ce domaine?
50 ans. Donc, ce que je peux faire, c'est vous lire déjà l'objet social qui est dans dans nos statuts. Cette association a pour fondement une profonde amitié entre ses membres et la population burkinabé. Dans ce cadre, elle a pour but d'apporter une aide adaptée aux besoins de la population du Burkina Faso dans les limites géographiques de la région du sud-ouest, c'est-à-dire les provinces du Noumbiel, du Pony, de l'Ioba et du Bougouriba. Cette aide se concrétise par la réalisation de projets visant au développement, à la scolarisation et au bien-être individuel ou collectif des Burkinabés, quelle que soit leur religion, leur origine sociale, leur âge ou leur sexe. De ce fait, elle est ouverte à toutes les confessions. Cette aide est réalisée en respect des valeurs individuelles et traditionnelles de la population burkinabé. Cette association s'inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises à Cabris depuis, alors dans les statuts il est écrit 40 ans, mais comme l'association a 10 ans, cela fait 50 ans, sur les initiatives personnelles de son épouse, Madame Michèle Delpierre, et donc Victor Delpierre, avec la participation de nombreux Cabriens. Et actuellement, l'association a 86 membres.
Bernadette, merci. Nous reviendrons avec vous dans cette deuxième partie. Je crois que le site est assez compliqué, donc on mettra dans la note
de
synthèse.
Je peux donner l'adresse mail, peut-être?
Oui, alors donnez-le.
Voilà, as.cabuso@gmail.com.
Merci, on va revenir avec vous. On écoute un tout petit peu de kora, cet instrument africain absolument merveilleux, et puis on va vous donner la parole, Yves. Alors Yves, que faites-vous? Vous êtes à Monsartou, vous avez une association aussi depuis longtemps qui travaille avec plusieurs partenaires. Dites-nous l'essentiel de votre démarche.
Donc notre association s'appelle Méditerranée-Afrique Solidarité. Elle est née tout simplement il y a une trentaine d'années de la rencontre avec des Africains qui étaient sur la Côte d'Azur et qui avaient le désir, le souhait de rencontrer des gens qui s'intéressaient à l'Afrique. Et cette association qui est née de la rencontre a pour projet, en fait, la rencontre. Et tout au long de ces années, 30 ans, nous avons fait la découverte d'une Afrique qui se met debout. De gens tout à fait exceptionnels, que ce soit au Togo ou en République démocratique du Congo, on parlait du Zaïre à l'époque. C'est-à-dire des sociétés essentiellement paysannes où nous découvrons avec toujours beaucoup d'émotion la capacité des gens à s'organiser, la capacité des gens à créer des sociétés, à faire vivre leur société, à faire vivre l'éducation, à faire vivre la santé, à faire vivre tous les domaines qui sont les domaines de la vie. Donc, nous avons comme projet d'être avant tout attentif et être témoin de ces expériences de transformation. Alors, en même temps, il y a une obligation qui nous est apparue, c'est d'être chez nous aussi acteurs de transformation et d'espérance, que ce soit avec des enfants, avec des collectivités territoriales, de manière à ce que nous soyons capables de construire quelque chose de très simple, des avenirs qui nous sont communs. Voilà le projet qui se vit au jour le jour, année après année, avec nos amis du Togo et de la République démocratique du Congo.
Yves, une référence pour votre site
Une référence qui est toute simple, mas06.com.
C'est facile à retenir.
C'est facile.
Alors, moi qui suis dans le studio et qui vois ces trois témoins de trois associations différentes dans le Pays de Grâce historique, et vous cherchez, là où vous êtes en France ou à l'étranger, vous allez trouver des gens qui font de telles choses, de telles démarches. Ce qui me marque, c'est qu'il y a trois dimensions qui réunissent ces gens qui sont dans le studio actuellement. Ils ont des racines. Ce n'est pas hier. Ça date depuis des années, 50 années, nous disait Bernadette, par exemple. Et c'est vrai aussi pour Marie-Noël et pour Yves. La deuxième chose, ce sont des gens qui sont ouverts au monde, pour et avec le monde. Donc on n'est plus dans une mondialisation sauvage ou avec d'autres expressions parfois bien surprenantes. Et il y a chez les trois un dynamisme, une simplicité, une joie de vivre qui fait que l'Afrique colore votre vie au quotidien en France, j'ai l'impression. Alors, nous allons reprendre cette discussion dans la deuxième partie, où au début, on entendra Denis Priant de Paris, qui nous parlera, lui, de sa vision comme éditeur et autour du livre sur lequel vous travaillez beaucoup. Je crois, Yves, par exemple, vous travaillez tous beaucoup.
Énormément. Hein, la question du livre est une question centrale. Surtout lorsqu'elle est prise effectivement dans un mouvement qui est celui de l'action éducative et de l'écoute, de l'éveil des sociétés. C'est-à-dire que les sociétés ont une vie, une mémoire, ils ont des récits, etc. Et l'action autour du livre est une action qui recueille, je dirais, l'expérience des populations qui en même temps transmet la littérature africaine et d'autres littératures. Donc là, il y a des expériences d'échange qui sont très profondes.
Quittons-nous pour cette première partie sur la Cora à nouveau. Et puis, ne quittez pas l'antenne, chers auditeurs, pour la deuxième partie sur ce thème majeur, l'avenir de l'Afrique et notre avenir. Nous accueillons Denis Priant, fondateur et directeur des éditions L'Harmattan. Il rentre d'Afrique. Qui, plus que les éditions L'Harmattan, publie d'auteurs africains en France ? Et qui, concrètement, est autant présent sur le terrain en Afrique que les éditions L'Harmattan ? Bonjour, Denis.
Bonjour, bonsoir.
Merci, Denis, d'être présent en direct avec nous. Nous avons eu, en début d'émission, Hervé Bourges, qui nous a parlé de son dictionnaire amoureux de l'Afrique. Et j'ai autour de moi, en studio, trois personnes qui ont des actions très concrètes à l'égard de l'Afrique. Mais, Denis, j'ai envie de vous poser trois questions. Votre position sur ce titre de cette émission, « L'avenir du monde se joue en Afrique ». La deuxième question, c'est comment vous êtes présent sur le terrain ? Et votre troisième Ma troisième question, votre projet en cours des 10 000 livres sur l'Afrique, comment nos auditeurs peuvent y participer ? Je vous donne la parole, Denis.
Eh bien, premier point un peu, pourquoi l'avenir un peu se joue en Afrique ? C'est tout simplement parce que nous sommes liés à l'Afrique de longue date. Le passé colonial, il ne faut pas l'oublier. On ne doit pas oublier non plus après toutes les diasporas que nous avons maintenant en Europe et même partout dans le monde, puisque les États-Unis ont aussi une diaspora africaine importante. et que quand on voit la séparation des grands blocs actuellement, il y a les USA d'un côté, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Europe, mais l'Europe sans l'Afrique, eh bien, elle ne fait pas le poids. Et si on parle, nous, un peu en avenir de francophonie, il faut savoir qu'il y a plus de francophones en Afrique qu'il n'y a en France. Et donc, notre avenir se joue un peu avec, justement, tous ces pays. Et puis, comme l'importance des migrations est absolument fondamentale, qu'il y a des communautés maliennes, mauritaniennes, des communautés congolaises, des communautés ivoiriennes chez nous, tous ces gens qui sont chez nous de longue date, eh bien, sont très très proches de nous et feront avec nous le travail par rapport à l'Afrique. Alors pourquoi l'Afrique est si importante aussi pour nous? Il faut voir qu'il y a une forte dépendance de la France et de l'industrie française des matières premières qui viennent d'Afrique. Si on voit point de vue alimentaire, où va-t-on chercher le café, le coton, le cacao? Si on enlève la Côte d'Ivoire de nos carnets, eh bien, il reste rien pour notre café et notre cacao. Si on voit les métaux précieux, si on voit même le zinc, si on voit, ou si on voit du point de vue agricole, les phosphates, ils viennent d'où? Les phosphates du Maroc sont très importantes. Si on voit pour notre industrie nucléaire, où on va chercher l'uranium, quel est le fournisseur principal d'uranium? Eh bien, c'est le Niger. Donc, toutes ces raisons-là font que nous sommes dans un lien extrêmement fort avec l'Afrique. Et ce lien économique va encore grandir. Alors bien sûr, il faut absolument qu'il y ait une entente, j'allais dire un accord de coopération de plus en plus fort entre l'Afrique et la France, et dans un système qui irait vers une égalité plus forte. Là récemment, je lisais un peu, puisqu'on est en période électorale quand même, et qu'il reste que deux candidats en liste, on sait bien, nous, de notre côté, on va pas du tout aller du côté du Front National, vu le travail qu'on fait sur toutes les migrations. Eh bien, un interview récent de Macron que j'ai lu, qui a été fait dans Jeune Afrique, notre candidat futur, peut-être futur président, j'espère, eh bien, Macron promet de cesser un peu la France-Afrique ancienne et de regarder l'Afrique avec un œil nouveau, ce que nous souhaitons. Alors, vous parliez d'une deuxième question, Michel Bernard.
Oui, comment êtes-vous présent sur l'Afrique?
Comment on est présent sur l'Afrique? Eh bien, nous, donc depuis 1975, et moi, de par un passé que j'avais vécu avec l'Afrique, puisque 1966-67, j'ai fait deux années d'études à Dakar dans une fin de cycle en sociaux et en psycho, que après je me suis occupé pas mal des coopérants qui partaient à l'époque, les jeunes Français qui partaient comme volontaires pour deux ans à la place de faire le service militaire. Donc j'ai eu un lien très très fort avec l'Afrique qui s'est amplifié encore, puisqu'en 75, lorsque j'ai dû changer un peu d'orientation de vie, eh bien on s'est dit on va créer une librairie édition, et l'Harmattan est au carrefour des cultures, et on a pris donc l'Afrique comme un des champs qui fait 20% de notre activité éditoriale. Il faut savoir qu'en 20 ans, enfin en 40 ans, en 42 ans même, nous avons publié plus de 4000 auteurs d'Afrique francophone. En tout secteur confondu, ça veut dire sociologie, économie, ça veut dire littérature aussi, poésie, théâtre, etc. Ils sont très actifs. Et avec nos liens avec l'Afrique, se sont toujours amplifiés, si bien que là, ces jours-ci, là, je reviens d'Éthiopie, et nous avons un projet sur l'Éthiopie, qui est un pays de 101 millions d'habitants, avec bien sûr une culture très ancienne et très différente, une Afrique très différente d'ailleurs de l'Afrique francophone côté Togo, Bénin, Congo, etc. Et dans les pays d'Afrique francophone, vu notre forte présence et vu l'importance des cultures, hein, l'Harmattan au carrefour des cultures, nous avons décidé de créer des entités, enfin des entreprises. Nous avons 11 structures en Afrique francophone, et dans ces structures, nous n'envoyons pas d'Européens. on fait une formation le plus poussée, la plus poussée possible des personnels, en les faisant venir même en France pour des stages. Et nous avons 11 structures qui cartonnent, puisque une structure comme le Sénégal fait plus de 300 titres par an maintenant. Et sur le Sénégal, pour aider à la circulation du livre, on vient de créer une petite imprimerie, enfin une petite imprimerie, une imprimerie très performante, très moderne, puisque on peut suivre de chez nous le cerveau de la machine et tout. Eh bien, cette petite imprimerie peut faire jusqu'à 14 000 livres par mois et des livres à l'unité. Ça veut dire que nous n'envoyons plus de bouquins sur le Sénégal actuellement. On envoie le fichier dans la machine et 3 minutes après, le livre est sorti au Sénégal. Cette petite structure, donc, qui est une entreprise, hein, qui est une entreprise autonome, va pouvoir fournir également les bouquins sur le Mali, sur la Mauritanie, sur la Guinée. Et ces jours-ci encore, et là, c'est Xavier, le neveu, Xavier Prien, qui revient de là-bas, avec Noémie, et puis avec Virginie Robert. On les a envoyés 8 jours en Guinée-Conakry, parce qu'il y avait les 72 heures du livre là-bas, que cette année, Conakry est capitale mondiale du livre 2017, capitale UNESCO du livre mondial, donc c'est intéressant. Et nous avions une quinzaine de titres à faire très très rapidement. On les a imprimés au Sénégal et ils sont partis après par le réseau des cars qui partent tous les jours ou des camions. Ben les livres 2 jours après étaient là-bas en Guinée. Donc voilà un peu nous notre engagement est vraiment de travailler à fond sur l'expression de la culture, la reconnaissance de la culture de l'Afrique de façon internationale. Et il y a des pôles intellectuels très forts, que ce soit sur Dakar, que ce soit Conakry, avec des universités qui sont assez fortes ou Côte d'Ivoire. Et donc nous avançons toujours dans ce sens, travailler avec l'Afrique, pour l'Afrique, avec l'Afrique, sur un pied d'égalité. Et je pense que c'est l'avenir. Moi, je suis toujours très content de voir en France un tas de gens d'origine africaine. Et quand j'entends les gens qui demandent « Ah ben, toi, tu es d'où ?» et que la personne répond « Je suis de Créteil », eh bien, ça fait plaisir. Voilà, je suis pour une migration. La Terre est une petite boule. Et je suis content que tout le monde puisse se promener tout autour. Voilà un peu notre conception.
Merci Denis. Quant aux 10 000 livres et quant aux livres majeurs qu'on recommande aux lecteurs, nous ferons ça hors antenne et ça sera dans la note de synthèse qui accompagnera l'émission. Merci beaucoup Denis. Merci.
Merci. Bonsoir.
Alors je vous donne la parole très rapidement, il nous reste peu de temps, mais je demande à chacun qu'est-ce qu'il a envie de dire au terme de cette conclusion, sachant que toutes les références sur vos livres, sur les sites, seront dans la note de synthèse. Et chers auditeurs, si vous lisez bien cette note de synthèse, vous pourrez prendre contact directement avec les 3 personnes en studio. Marie-Noëlle ?
J'ai entendu des belles choses et c'est vrai qu'on a un partage. C'est cette rencontre extraordinaire de notre humanité qui s'épanouit justement dans la voilà. Et ce qu'on vit avec eux, bah, c'est justement qu'on a envie qu'ils soient pas enterrés par une économie mondiale qui fonctionne pas avec eux. Voilà. Donc au contraire, on veut les aider à plus que survivre, à vivre vraiment et vivre sur place avec ce qu'ils ont. Voilà, d'où nos petites contributions pour un moulin à mille, pour des fabriques de savon au beurre de karité, pour voilà des petites choses comme ça, mais qui leur permettent de rester, de vivre sur place.
Votre site ou la référence pour prendre contact avec vous ?
Alors notre site, c'est sur le site du consulat du Burkina Faso, voilà, de la Côte d'Azur, je précise. Et puis surtout, ben notre adresse mail.
Voilà, allez-y.
Voilà, château comme un château. Petit-du-6, naco@orange.fr.
Merci beaucoup, on aura tout cela dans la note de synthèse. Je me permettrai seulement de citer ce que vous écrivez à la fin de l'un de vos livres, cette phrase qui doit nous laisser réfléchir pour le 21e siècle. Écoutez ce qu'écrit Marie-Noëlle. Nous avons pris l'habitude de laisser aux pauvres les miettes de nos tables de nantis. Nous devons apprendre au contraire à guetter, ramasser les miettes de la table des pauvres. Bernadette ?
Donc, pour devenir autonome, la ferme école avait besoin d'un tracteur. Nous le leur avons trouvé, donc il va arriver dans les jours qui viennent. Ils sont aussi à la recherche d'une charrue qui devrait aussi bientôt arriver puisque nous avons l'argent. car notre but, c'est de rendre autonomes les personnes que nous aidons. Ça serait épouvantable de les laisser sous notre dépendance, ce qui serait possible, hein. Donc là, elle va pouvoir devenir autonome. Nous continuerons à l'accompagner un petit peu. Et après, nous allons aussi nous tourner vers d'autres projets. Mais je voulais aussi dire qu'il existe, notamment pour l'eau, une loi qui s'appelle la loi Houdin-Santini. Cette loi Houdin-Santini permet aux collectivités territoriales ou locales de réserver 1% des bénéfices de l'eau pour aider des pays en voie de développement. Et avec le change, cela fait une aide énorme. Donc, lorsqu'il vous vient l'idée de récolter de l'argent pour de l'eau, pour des forages, tournez-vous vers vos élus jusqu'à ce qu'ils disent oui, et votre argent servira à une autre aide, par exemple l'agriculture familiale, comme la ferme.
Merci Bernadette, surtout de dire que le problème de l'eau est un problème majeur, fondamental, et que vous rappelez quelque chose qui existe et qui fonctionne. Voilà. Il faut se battre et obtenir. Voilà. Yves ?
Oui, je voulais donner tout simplement l'exemple du travail de nos partenaires au Togo qui sont très très engagés sur la question de l'éducation et de l'éducation de qualité. Ce sont des gens qui ont pris en charge un petit peu la société dans laquelle ils vivent, qui est une société paysanne très modeste, très pauvre. Et au départ, ils ont souhaité effectivement transformer les écoles qui étaient des écoles en bronco, en de belles écoles construites avec des briques améliorées, des briques écologiques, faites avec la latérite, transformées. C'est des écoles qui sont magnifiques. Et puis la question s'est posée très rapidement de la qualité de l'éducation, c'était aussi de la formation, de l'appui pour les maîtres. La question de la formation s'est mise en place. Et ce sont les acteurs africains eux-mêmes qui prennent en charge ces efforts de formation en lien avec d'autres acteurs chez nous, en Belgique. Et puis une troisième question s'est posée, qui était celle du livre. Rendre le livre accessible, alors par des bibliothèques. Des bibliothèques ont été créées, des bibliothèques qui sont devenues des médiathèques, et des bibliothèques qui sont tournées vers la culture africaine, dans la culture paysanne. Ce sont des bibliothèques qui recueillent effectivement les récits des paysans. Et là, il y a une aventure qui est tout à fait extraordinaire, qui fait que nous envoyons bien entendu des livres là-bas. Il y a eu des collectes l'année dernière qui ont permis l'achat d'un bibliobus. Mais ce qui nous émerveille, c'est qu'à 90%, à 95%, c'est l'effort de ces partenaires africains qui arrivent à transformer leur société par l'éducation.
Merci Yves, on pourrait prendre encore un très long temps. Merci Yves, merci Bernadette, merci Marie-Noël, merci à distance à Denis. Nous allons terminer cette émission par écouter quelques proverbes africains, parce que je crois qu'il y a beaucoup de sagesse en Afrique et il faut de temps en temps le rappeler, une sagesse que parfois on a complètement perdue. Et puis c'est un chant d'enfant africain qui va clôturer cette émission. Je voudrais rendre hommage au terme de cette émission aussi à Stéphane Pinault, qui est animateur de l'émission qui suit, Madine Africa, qui est une très très belle émission, mais ce soir il est en Afrique, et plus précisément au Sénégal, donc il n'est pas avec nous, mais je veux rendre hommage au remarquable travail qu'il fait, et plus largement à la contribution qu'Agora a sur tous les problèmes de culture. Je voudrais aussi rendre hommage ce soir à l'Ouganda, tout simplement, qui a trouvé comme système pour accueillir les migrants de leur offrir une terre, ce qui facilite leur vie au quotidien. C'est un geste politique, noble, absolument extraordinaire, qu'il ne faudrait pas oublier. Et le président de l'Ouganda rappelant, nous avons trop souffert pour ne pas faire ce geste à l'égard de ceux que nous allons devoir maintenant accueillir. Quelle leçon, y compris pour nous. Chers auditeurs, bonsoir. Écoutons ces quelques proverbes africains et cette musique. Je vous donne rendez-vous au vendredi 26 mai pour une découverte qui vous surprendra et qui cette fois sera beaucoup plus locale, mais quelque chose de très surprenant. Bonsoir, chers auditeurs.
Ce n'est pas parce que c'est dur que l'on n'ose pas, mais c'est parce que l'on n'ose pas que c'est dur. Si tu sèmes une épine, quand elle poussera, elle te piquera. Si tu regardes une image très laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Ne repousse pas du pied la pirogue qui t'a déposé sur la berge. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Ne te lasse pas de crier ta joie d'être en vie, et tu n'entendras plus d'autres cris. Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme. C'est sur terre que chacun se crée. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Un vieillard qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle.
Kenya yetu, hakuna matata.